Bonjour à toutes et à tous, à chacun, à chacune, Christophe Jubien pour vous accueillir dans cette nouvelle édition de La Route Inconnue, votre magazine dédié à la poésie vivante, celle qui s'écrit, se publie et se lit, du moins, l'espérons-nous, aujourd'hui. En cours d'émission, vous retrouverez nos amis Jean Tonini, Jean-Claude Touzeille et Jacques Morin. Ils vous partageront leur coup de cœur et puis, de mon côté, je vous lirai un poème que j'ai reçu du Maroc, un poème d'un jeune étudiant en lettres, Khaled El Morabetti. Quant à mon invité du jour, eh bien, il est un familier des lieux, puisqu'il s'agit de Francis Crumble, poète d'origine alsacienne, angevin d'adoption, citoyen du monde par conviction et insulaire de son état. Son île surnage quelque part sur la Loire, elle est devenue l'une de ses sources d'inspiration, l'autre étant, pour ainsi dire, l'état du monde. Quand le monde va mal, ce qui lui arrive assez souvent, il faut bien convenir, eh bien Francis Crumble ne va pas bien non plus, là, le blues. Comme un blues pour Blaise, c'est d'ailleurs le titre de son dernier recueil paru aux éditions Henry. Le Blaise, à qui vous avez dédicacé votre livre, Francis, c'est évidemment Blaise Cendrars, un de vos frères de plume. Qu'est-ce qui vous plaît tant chez Cendrars?
Oh là, Cendrars, c'est tout un monde. En fait, en parlant de Cendrars, c'est une grande plongée vers mes débuts en poésie et l'adolescence. On avait donc ce poète, on le portait au nu, et on avait un texte qui s'appelait La prose du Transsibérien, qu'on écoutait presque religieusement et qu'on trouvait pour l'époque révolutionnaire qui révolutionnait la poésie. Et bon, bien sûr, j'ai lu Blaise Cendrars, je l'ai lu, relu, j'ai lu ses romans, c'était un grand bourlingueur. Parfois, c'était des choses mythiques qui n'étaient pas forcément tout à fait vraies, il inventait. Et surtout, il a beaucoup, beaucoup voyagé. Et il est exactement à l'inverse de ce que je suis. C'est pour ça que je l'admire. Moi, je suis casanier. Au pire, je tourne autour de mon île et du jardin, voilà.
Ouais. Donc, enfin, vous êtes un grand voyageur intérieur, tout de même.
Voilà, c'est ça.
Alors, Cendrars n'est pas le seul à vous tenir compagnie sur votre île. Dès le premier texte, il est question de Rilke, de Schiller, deux poètes de langue allemande, ce qui m'amène à évoquer votre double appartenance culturelle, à la fois française et germanique. On peut dire que vous avez un pied de chaque côté du Rhin.
Oui, oui, si on veut, bien sûr. Alors, le poème où il est question de Schiller et de Rilke s'appelle justement « Ostalgie », ce qui est un mot un peu inventé pour dire la nostalgie de l'Est. Et donc, il fait référence à ces poètes que mon entrée en poésie, si vous voulez, par un petit peu par la bouche de ma mère, qui connaissait les textes par cœur et qui me faisait travailler l'allemand à l'époque. Et beaucoup plus tard, j'ai redécouvert le dialecte alsacien, qui est un dialecte, notre dialecte, qui est un dialecte alémanique, voilà.
Oui, alors est-ce que vous pouvez nous éclairer justement sur les origines de ce dialecte parce qu'on parle aussi, me semble-t-il, vous me direz si je me trompe, on parle aussi l'alémanique, je crois, en Suisse, non?
Oui, c'est ça. Oui. C'est-à-dire que les langues ne s'arrêtent pas aux frontières, au Rhin. Donc le dialecte alémanique, il est parlé en Suisse, il est parlé en Allemagne, en Pays de Bade aussi, voilà.
Dans vos premiers livres, justement, il est question d'identité culturelle. Exemple, le livre intitulé « Hors du cercle », qui est bilingue, donc à la fois français et alsacien. Oui. Est-ce qu'à un moment, au départ, il s'est posé la question pour vous de savoir si vous alliez écrire en français ou en alsacien? Est-ce qu'il y a eu, à cette époque, en Alsace, la volonté de faire vivre le dialecte aussi sur un plan littéraire?
Oui, oui, oui. Nous avions de grandes références. Un poète qui s'appelait Nathan Katz et que le poète Dieuvic a connu. Et nous avons, moi j'ai découvert très tard un poète français édité chez Gallimard qui s'appelle Jean-Paul de Dadelsen. Et donc nous avons découvert tardivement toute cette culture dialectale et même Jean-Paul de Dadelsen, qui était un grand poète de langue française. Il était au lycée à 10 kilomètres du village où je suis né. Donc il y a tout un retour à nos valeurs culturelles qui sont différentes, quoi, des valeurs de l'autre côté du Rhin, quoi, des valeurs françaises. Et tout ça, ça a été redécouvert, mais on n'est pas resté, enfin moi personnellement, je ne suis pas, surtout pas resté cramponné au territoire. D'ailleurs, mon premier livre s'appelait « Hors du cercle », et un suivant que j'avais fait avec le Rüdiger Fischer, qui est décédé, qui avait fait des traductions, s'appelait « Le piéton de l'air »,« Luftmensch », ce qui veut dire « l'habitant de l'air », quoi, l'homme du cosmos, si on veut.
Oui, oui, parce qu'on sent que la question identitaire qui peut-être s'est posée pour vous et pour les jeunes Alsaciens dans les années 60, à la fin des années 60, comme elle pouvait se poser d'ailleurs en Bretagne et dans d'autres territoires, hein, en Occitanie, on a l'impression que vous l'avez vraiment dépassé aujourd'hui et que ce qui vous obsède désormais, c'est plutôt le cosmos et la place de l'homme dans le cosmos.
Oui, absolument. Absolument. Cette histoire de même d'identité, je trouve qu'on s'y attarde actuellement beaucoup trop parce que, bon, moi j'ai retrouvé le dialecte de, ça fait référence à mes parents, bien sûr, c'est leur faire honneur que de, j'écris encore des textes en dialecte et sans gros problème, quoi. Mais il faut aller plus loin, il faut, on vit en citoyen du monde maintenant.
Oui. Est-ce que vous aviez, hors du cercle, donc votre premier livre, a-t-il été écrit d'abord en dialecte et ensuite traduit en français ou le contraire ?
Ah ben c'est très mélangé. Il y a certains textes qui ont été écrits en dialecte, d'un premier jet et à peine retravaillés, et d'autres en français. Et surtout j'ai aussi commis des traductions de René Guy Cadou en dialecte alsacien. Ah. Et ça, j'en suis assez fier parce que personne ne l'a fait.
Alors, chez vous, vivre et écrire ne sont jamais séparés. Alors, je me souviens que Louis Jouvet conseillait à ses élèves de mettre de l'art dans leur vie et de la vie dans leur art. C'est très exactement ce que vous faites. Je vous cite page 7, c'est la lecture du poème « Ce serait l'heure des boutures ». Vous dites « Des haies pour les oiseaux, des mots pour les poèmes ». Le projet tient de quoi remplir une journée.
Absolument, absolument. Et c'est vivre qui alimente l'écrire, comme chez tout le monde, je crois. Alors, et puis vivre le si possible intensément.
Il y a dans votre livre « Matière à jubilation », je pense qu'il nous donne une petite idée de ce que pourrait être une vie, pour reprendre une terminologie taoïste, une vie accordée au cours des choses, c'est-à-dire accordée aux saisons, parce que le poète que vous êtes est aussi jardinier. Mais c'est un jardinier à la chinoise, hein. Vous partagez votre coin de terre avec les mulots, les papillons, les hannetons.
Oui, absolument. Oui, c'est un jardin bio. Plus ça va, plus je vieillis, plus ça devient une friche d'ailleurs. Certains grands jardiniers comme Gilles Clément préconisent la friche et moi j'en suis. Je suis dans cet esprit-là.
Ouais. Vous vous intéressez beaucoup aux nouvelles théories du jardinage ?
Oui, ouais. Oui, oui. Par exemple, je bêche plus mon jardin. Ouais. Je passe un outil à 5 dents qui s'appelle la grelinette et qui, un truc technique et qui ne bouleverse pas les couches de terre.
Ouais. Alors évidemment, oui. le fait de vivre en harmonie et en bon voisinage avec les bêtes, c'est aussi une source inépuisable d'inspiration pour votre poésie, hein.
Oui, 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 absolument, absolument. Là, nous avons, au mois de juin, nous avons eu une crue et c'était un événement vraiment poétique à fond, quoi. Donc j'ai tenu un espèce de journal de crue, voilà.
Ah oui, on va peut-être, pour nos éditeurs, rappeler où vous habitez. J'ai dit que c'était une île. Il s'agit de Bébar, c'est sur la Loire, c'est entre Angers, on va dire, enfin près d'Angers, hein, à côté d'Angers.
Oui, à 15 km d'Angers, entre le village de Savenières, réputé pour son vin, et le village de Rochefort-sur-Loire, réputé pour son vin et sa poésie.
Voilà. Et vous organisez chaque année le marché de la poésie de Rochefort-sur-Loire,
oui.
Qui est un rendez-vous important, évidemment. Le fait de vivre dans une île, est-ce qu'on flotte un peu ? Est-ce qu'on se sent un peu flotté ? On n'est pas tout à fait un habitant de la terre, on n'est pas non plus un habitant des eaux, on est entre les deux ?
Oui, 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 absolument. Surtout, ben, comme je disais, quand il y a la crue, c'est vraiment la situation la plus poétique possible, quoi. Et on est cerné par l'eau.
L'hiver, il peut arriver que vous vous déplaciez en barque, vous soyez obligé de laisser la voiture.
Oui, moi, j'ai pas de barque, on a des cuissardes, et puis, on a de la chance sur le petit chemin au bord de la Loire, il est assez élevé, Donc on met nos voitures ailleurs et voilà, et on va patauger dans l'eau comme des gamins.
Alors ce livre, Comme un blues pour Blaise, c'est aussi le carnet de bord de vos mélancolies, car le monde est habité par les hommes, habité et dominé par les hommes qui sont une espèce peu sage. Et ce sont bien les hommes qui vous empêchent de dormir, n'est-ce pas ?
Oula, oui, oui, ça on peut le dire. Ouais. Ben, vu la situation, écologique de tout ce qui se passe, le réchauffement de la planète, la guerre, moi c'est la guerre ailleurs qui nous n'avons pas connu, nous sommes des générations chanceuses, nous n'avons pas connu la guerre. Et les guerres, moi, ça m'empêche de dormir, voilà, exactement. Quand j'imagine des enfants sous les bombes, j'ai été enseignant, je peux pas imaginer ça, quoi. C'est affreux.
Le fait d'être, d'avoir été un frontalier aussi, l'Alsace est tour à tour été française, allemande, française, etc. Est-ce que ça donne aussi finalement une forme de, justement peut-être de dégoût pour les appartenances territoriales ?
Ah oui, absolument. Le fait d'être comme ça d'un pays de frontières, c'est ça qui provoque le fait d'avoir envie d'être citoyen du monde, quoi. Ouais. C'est certain.
Alors, habiter poétiquement la terre, c'est une question qui hante vos pages, qui est plus que jamais à l'ordre du jour. Des nuages noirs s'accumulent au-dessus de nos têtes, des centaines d'espèces disparaissent chaque année et votre poésie emporte le deuil. Je me permets encore une fois de vous lire le texte, page 21. Fêlure, crise du capitalisme, crise du libéralisme, quelle crise, insidieuse pollution, rire du désherbant, insecticide, souillure de l'eau, de l'air, de la terre, qui se soucie de la crise du rouge-gorge, de celle de la mésange, de la disparition du hanneton, de la mort lente des abeilles. Et là, vous dites, poète de papier, nos jérémiades sont vieilles comme la lune et nos cris sont inaudibles. C'est dire si, finalement, le cri est nécessaire, mais il n'empêche pas la roue de tourner, quoi.
Oui. Ben, c'est-à-dire, c'est un poème qui marque notre impuissance, quoi. On a beau parfois militer quand on est plus jeune, être actif, signer des pétitions, enfin tout ce qu'on veut, bouger politiquement comme on peut, mais c'est très compliqué. Heureusement, il y a des petites choses qui se passent un peu partout que les médias ne popularisent pas parce que c'est pas porteur, mais heureusement qu'il y a des petites choses qui se passent, mais sinon on serait découragé, quoi.
Alors, je voudrais qu'on parle aussi peut-être de la forme que prend ce livre. Il est comme vos précédents livres où vous avez vraiment adopté finalement la forme du carnet de bord qui mêle le journal et la poésie finalement.
Oui. C'est-à-dire c'est une manière d'écrire. J'ai toujours flotté entre un compte-rendu du quotidien, mais un compte-rendu peut-être légèrement transformé, parfois poétisé, et le texte de poésie écrit voulu tel que, quoi. J'ai toujours un peu flotté entre ces différentes options, quoi. Et par exemple le petit travail que j'ai fait sur la crue, là c'était vraiment un jour un journal quotidien de l'évolution du petit univers autour de moi. Et j'ai de plus en plus tendance à écrire comme ça des choses du quotidien, sans que ça soit un journal, parce que le journal, ça astreint, ça enferme trop, quoi. Ouais. Il faut dater, j'ai pas envie de dater forcément.
On peut penser parfois à, je suis en train de relire le journal de Henri Thoreau, on pense parfois à Henri Thoreau en vous lisant, cette tentative pour habiter poétiquement le monde.
Oui, Walden.
Walden, voilà.
Oui, c'est une référence que j'admets totalement et que j'aime beaucoup.
Ouais. Il y a une autre source d'inspiration, et j'en ai pas encore parlé, mais c'est quand même la musique et notamment le jazz. Vous écrivez toujours avec une musique derrière vous ?
Très souvent, oui.
Très souvent.
Mais elles sont très choisies. Elles sont très choisies, des musiques quand même douces, quoi. Quand j'écoute du free jazz ou Coltrane ou... Je n'écris pas, j'écoute presque religieusement.
On va écouter tout à l'heure Coltrane.
Oui.
Bon, alors une dernière chose, on arrive à la fin de cet entretien, mais avant de commencer la lecture de vos poèmes, j'aimerais que qu'on parle de l'amour que vous portez à vos compagnons de route. Alors évidemment, on a cité Sandra Ars tout à l'heure, Rilke, mais il y a aussi des auteurs qui nous sont plus proches dans le temps. Je pense à Paul Cholot, à Pierre Garnier, à Serge Vélens et bien d'autres qui sont tous présents dans vos poèmes. On les voit se pencher sur l'épaule de vos journées. La poésie est une aventure solitaire, mais votre solitude, la solitude du poète, est peuplée.
Oui, oui, absolument. Ben, j'ai bien connu Serge Vélens, Serge Vélens et Pierre Garnier. C'est Serge Vélens qui m'a fait connaître la poésie de Paul Cholot, que j'ai découverte grâce à lui. Et pour l'Alsace, il y a aussi Nathan Katz. Donc, on écrit jamais seul. On traîne des lectures avec nous, on traîne des fréquentations, et certains de ces poètes, on les a connus physiquement, et on s'en souvient, et ils ont été magnifiques. Je pense à Garnier, Vélens particulièrement, qui ont été tout le temps encourageants, qui nous ont lus avec beaucoup de sollicitude et de bienveillance, et qui nous ont encouragés surtout.
Un grand merci à Francis Crumbel pour sa disponibilité à répondre à nos questions. Et puis, tout de suite, je vous propose d'entrer dans le vif de son livre. Nostalgie. Susciter l'enfance. Et lire un poème nègre, retomber amoureux de la petite voisine malgache, aller cueillir des violettes pour en faire un sirop de mélancolie. Poésie perdue, chaleur des villages, orage d'été, groseille de la Saint-Jean, Rainer Maria Rilke ou Schiller, pain doré dans la bouche d'une mère, susciter l'enfance, quand rôde déjà la mort quelque part, au bout du quai. Les tomates pourrissent lentement. Rose, rose dans le gazon vert, jaune des feuilles du saule en face. La rhubarbe en rut fait ses dernières pousses. Les chaises en plastique, moches et blanches de la terrasse, attendent qu'on les mette au sec pour le printemps. Un rouge-gorge fait ses provisions, menu rapide, ça y est, il a pris son envol. Les sanglots longs sont restés dans les livres. Les enfants sont dans la lune, au bout du stylo, humeur joyeuse. Rouge l'automne. Je ne sais pourquoi me vient l'image du village, de la mémoire, de son peintre à palette rugueuse. Rousseur, chaleur de peinture et sa marque sur la toile. Une pie jacasse, l'unique rose égarée dresse sa splendeur désolée. Dans les brouillards rénants, on coupe le chou à mettre en saumure. Certitude des saisons que rien ne bouscule. Peinture pour les yeux, en attendant l'hiver. Grand calme de l'aube. L'air est vif, le ciel est froid. Image, ce pourrait être le paysage apaisé un peu mystique peint par Egon Schiele, une de ses dernières œuvres, arbre noir sur fond rose et mauve. Pourtant, lumière en plus ici, indescriptible lumière du vivant de ce matin d'hiver. Une buse sur un piquet, tout pousse et germe sous les tunnels. Un jardinier bêche son coin de terre. Le passant est pressé lui aussi d'aller s'agiter dans son coin d'herbe. Ce serait le moment d'une plantation, ce serait l'heure des haies. Une aile nue du jardin attend. Recherche de boutures, de pousses, comme on cueille les mots, au sécateur. Des haies pour les oiseaux, des mots pour les poèmes. Le projet tient. De quoi remplir une journée. Le puits n'est pas sec, son eau sommeille au fond. Une pompe inactive, bel objet à restaurer, des gestes endormis à réveiller. Image perdue du père arrosant avec sollicitude quelques plants dans le jour déclinant,
gestes élémentaires dans l'universel. Puiser, remettre en usage un verbe inusité, fragile. Buer sur un verre d'eau, dans la chaleur lourde de l'été. C'est étrange, cette absence de conscience insulaire, cette vie au ras des terres, chacun pourtant porte en lui de lointains souvenirs, vestiges amniotiques, vertiges d'eau. On plonge dans l'archétype, survole cette terre close, on envisage les sables et les boues, les limons âcres et nourriciers. Le fleuve parfois, vieux géant fragile, qui nous tient à sa merci d'une poigne solide, dans sa bonté nous octroie quelques troncs moussus émondés par les flots. Les oiseaux prennent la mesure de cet univers ouvert aux quatre vents, et pourtant de terre cernée. Car nous marchons, piétons indécis et lunatiques, prenant garde en longeant les territoires de l'eau de n'y point sombrer. Comme des géomètres, nous arpentons ces lepins de terre humide à la recherche de nos limites, et les osiers roux sont nos amis. D'appartenir à aucun lieu, ne résider qu'en un pays ouvert, s'asseoir devant le feu qui brûle et nettoie les désirs, les ronces, disperser les cendres dans les champs de l'attente indéfinie, écrire pour voir, dire ce qu'il est possible de dire et n'y attacher qu'une importance légère, apprendre la lenteur un peu chaque jour, sans passion excessive. Poème du lundi matin pour Maëlie, écrit le jour de sa naissance. La maison bardée de bleu, peinture fraîche, chantier mené à terme. Le ciel dans son tissage blanc de nuages, jardin mouillé par les pluies, amis repartis. Un enfant du désir né quelque part dans le nord et sa mère apaisée. Tout me laisse à ma solitude pleine et dense. Vivre est aussi clair que le jour qui va passant. Bestiole de la colère pour Jean-Paul Sorgue. Baisse la garde de la colère. Quand tu vois par ici, par là, des trous de mulot dans des plates-bandes qui au fond t'appartiennent moins que tu le penses. Respire, imagine les petites bêtes de Joseph Bruchac, l'Amérindien, dans son premier rouage. Je ne doute pas que quelques-unes de ces petites bêtes dormiront près de mes champs pour revendiquer leur parcelle, partie de cet ancien modèle, non pas de guerre, mais d'équilibre entre nourriture et naissance. Chacune, chacun, sa part des fruits de la terre. Il faut en certaines circonstances vraiment apprendre, apprendre toujours. Rien n'est facile. Tu peux te situer à l'ombre de Schweitzer aussi, cet autre vieil indien moustachu. Dans ta mémoire, aux rumeurs résurgentes, flotte parfois son masque buriné. Que dire de la mort du vieux Saul attaqué par une tribu de Capricornes ? Piano, bouffé par les termites. Image. Des lézards sortent, gigotent au soleil, rapides et furtifs sur la pile de bois, et des bouts d'enfance avec eux. Hannetons de mai aussi, 3 ou 4, c'est rare, même affaibli. Très vieille image de la colère des filles, bestiole dans les cheveux. Petit bruit régulier de moteur qui ronronne. Un bateau passe. Une plate, une toux cabanée, une jonque qui sait. Universalité de l'image, l'homme qui va à l'aventure sur les fleuves fragiles de la petite terre, prélever quelques poissons à mettre sur la table, nourriture à partager. Image du poisson, image du bateau, simplicité biblique. Mais dessous la réalité, cela grouille de poison, de chimie, d'algues, peut-être voraces et tueuses. nos incinérateurs fonctionnent à merveille. Comme un blues pour Blaise. La nuit m'entoure. La télé est éteinte. Elle sentait mauvais. Des histoires anciennes m'habitent. Je relis la biographie de Sandrars, le poète. J'écoute la prose du transsibérien. Vicky Messica transfigure et habite un texte qui m'a tant de fois fait rêver. Voyageur immobile d'un autre siècle, je bourlingue entre enfance, adolescence et cette vie d'aujourd'hui qui se déglingue. En musique de fond, il y a peut-être Coltrane pas loin. La vie défile, le monde aussi. Kerouac se mêle à la danse et Gabi le beatnik et Alain, mon jeune frère poète. Césaire et Sangor de même. On rêvait la vie nous rêvait. Quand on voyage, on devrait fermer les yeux. Je reconnais tous les pays à leur odeur. Nostalgie, jaunisse qui pue. Les affiches bariolées du poète ne sont plus. Ici le fric, la pub est libérale et Delaunay devient une quelconque infographie. Les voyages aujourd'hui sont la commune mesure d'un monde étroit et ce monde s'est écroulé, craquelé lentement à petit feu sous nos yeux sans qu'on y prenne garde. Le fleuve au fond du jardin prépare sa crue. Je me laisse gagner, emporté par des flots de phrases hypnotiques. Tout à l'heure, je vais replonger dans les packs à New York et me laisserai lentement submerger par la plus belle, la plus grande, la plus terrible tristesse qu'un homme puisse éprouver. On annonce des tempêtes, le vent se lève, ma tête bouillonne. Je suis sur les chemins de Blaise, j'écoute la maison craquer, le vent rugir, les ardoises siffler sur les pignons. Au saxo, c'est Train qui souffle et beugle avec Dolphy qui l'accompagne. La tronche de Sandrars, son chapeau cabossé ou sa casquette d'apache, le mégot sempiternel au coin de la bouche me fait bien plus rêver que ces silhouettes de professeurs de haïku essoufflés ou de slam de pacotille. Aujourd'hui est un jour de doute. Je m'en vais couper du bois à la tronçonneuse. Dans la sueur s'envolera un poème de vie, de sueur et de travail. Dans de sombres forêts fêlées, alentour des mégapoles, des hommes meurent dans la solitude et le froid. Pas la moindre poésie au cœur de l'homme, ou alors uniquement fleurs noires de désespérance et ronces de violence. Que dire de cette humanité qu'on dit évoluée et dont nous formons les obscurs bataillons? Pour Célène, enfance de l'art. Elle est là, elle vit, palpite, voit l'oiseau furtif et familier. Elle tend les bras, veut l'attraper. Elle est enfant, il est oiseau, cela se voit dans ses yeux. On lui dit le nom de la tourterelle. C'est compliqué, ces trois syllabes qui roucoulent. Elle rit, babille, imite, commence, recommence. Pour finir, elle imite même le bruit que l'adulte maladroitement émet pour sa joie. Elle court, elle tend les bras, elle est là dans ce soleil blond et son regard indique le beau temps. Beau dimanche, beau temps d'enfance. La vie, ses bruits, ses sons, ses syllabes et le silence aussi. Ainsi vont nos origines communes dans le grand langage en devenir. Tout ce que nous avions oublié et oublions encore est toujours là, parce que la vie, bien sûr, passe comme un songe, métamorphose et danse des mots. Enfance de mort. En Afrique, quelque part. Même enfant, bien qu'il ne soit pas blond, il se cache dans des buissons. L'adulte pourri, déguisé en militaire, rabatteur, chasseur, que sais-je, fait du bruit, pousse des cris pour débusquer son gibier. Il trouve l'enfant qui ne tend pas les bras, qui n'imite pas la tourterelle. C'est un enfant plus vieux qui devine déjà le langage dévoyé du chef hideux. On le tense, on le menace, le houspille, lui colle une arme dans les bras, le fait repartir au pas maladroit. soleil noir. Enfantillage. Transparence du jour, lumière vive. Des enfants autrefois dessinaient un soleil vif, rond et souriant dans un coin du paysage. Je ne sais pas si l'usage persiste. L'enfant, c'est moi aujourd'hui. J'assume. Le fœtus du film 2001 lentement se transforme en vieil adolescent attardé, au visage qui se ride et se déride aussi à la vue d'un astre vigoureux au-dessus du givre dans le ciel d'un jardin. J'ai toujours aimé ce froid de l'aube qui me renvoie aux ancestrales, aux primitives attitudes ouvrières. Couper du bois, manier la serpette pour faire de l'allume-feu, ficeler des fagots, s'agiter dans la lumière du jour, s'arrêter, écouter le bruissement du sang, de la vie, se poser, s'arrêter encore et louer le silence, le froid et le givre. Un mégalithe de bonheur inconnu se pose dans la prairie, tandis qu'ailleurs, tout s'agite en vain sans doute. Le jour est un enfant sauvage. Voilà, c'était quelques extraits du dernier livre de Francis Cramble, « Comme un blues pour Blaise », publié aux éditions Henri, collection « Les écrits du Nord ». Je vous propose d'écouter du jazz, car Francis est un très grand amoureux du jazz, et je crois savoir que son ange gardien s'appelle John Coltrane. Alors on écoute John Coltrane, Afro Blues, après quoi nous avons rendez-vous avec Jacques Morin de la Revue des Charges pour sa revue des revues audio du mois. Voilà, c'est le grand John Coltrane, Afro Blues, et comme promis, la revue des Revues des Mois qui nous est présentée par Jacques Mau, Jacques Morin, directeur de publication de la Revue des Charges, notre partenaire, et nous en sommes fiers.
Revue audio numéro 37, consacrée cette fois à la revue Les Hommes sans épaules numéro 42. Le dossier central de la livraison, forte de plus de 320 pages, est consacré à Claude Pélieu, par Pierre Joris et Alain Brissiot. Claude Pélieu est né en 1934 en France, 3 ans en Algérie, dans les Bat-Daf, puis il part aux États-Unis en 1963 avec Mary Beach, sa compagne, aux États-Unis où il résidera, malgré quelques retours en France, à Paris ou à Caen, jusqu'à sa mort en 2002. Une dague orageuse explose entre les sourcils du sexe. Il fut le seul représentant français de la Beat Generation, adepte du cut-up et auteur de nombreux collages, la lune incandescente isocèle la conscience et hurle comme un moteur mal aimé. 30 pages de son œuvre, comprenant une 50aine de recueils, est donnée pour sonder sa poésie si particulière, et cette définition, écrire la poésie, c'est plonger dans l'inconnu et marcher, marcher, pour oublier les crimes crapuleux des mots et la mémoire mouvante. Des poèmes de Jack Kerouac, Julian Beck, Allen Ginsberg, Carl Salomon, Ed Sanders, Pierre Joris et Bruno Sourdin suivent autour de Claude Pélieu. Avant un ensemble consacré à Allen Ginsberg, avec un texte écrit par Pélieu pour son 60e anniversaire, la poésie de Ginsberg est toujours hors champ, en marge, dehors. Et une étude de Christophe Dauphin sur le poète Amérique, l'auteur de Howl, se joindra dans les années 60 au mouvement hippie et deviendra un symbole de l'opposition à la guerre du Vietnam. Le chef de file de la Beat Generation restera avant tout comme un grand mystique. Il disparaît à l'âge de 70 ans. D'autres auteurs du même mouvement sont également présentés dans ce même numéro comme Laurence Ferlinghetti, Gregory Corso, le célèbre auteur de Bomb, Bob Kaufman et aussi Wim Karenin. Mis à part ça, Christophe Dauphin donne un édito très engagé sur la religion où il s'appuie sur des prises de position de Tanisma Nasrin et Adonis. À la suite de quoi il rend un chaleureux hommage à Yves Bonnefoy sous l'angle de sa perception du surréalisme et cette citation « Yves Bonnefoy retient que la poésie n'est pas un discours orné, mais qu'elle est comme une langue étrangère à l'intérieur de la langue et par laquelle l'individu fait une expérience particulière, une mise à l'épreuve de soi-même. » Mis à part ça, deux poètes sont mis en avant dans cette livraison, l'allemand Hans Magnus Enzensberger, né en 1929 en Bavière. À Reres, on échange des baisers pour 2 fois 5 dents. Avec une poésie engagée et questionnante, tendez vos paumes d'Adam à mes morsures de Judas et des textes drus longs et captivants. Ne manquez pas d'acheter des cercueils climatisés avec chasse d'eau. Et ensuite, le poète hollandais Sis Nethumboom, né en 1933 à La Haye, qui manqua de devenir moine avant de parcourir le monde du Suriname au Japon. Je suis, telle une flèche, tendue vers le lointain, mais dans le lointain, je ne suis rien. Mis à part ça, une étude brillante de l'œuvre de Colette Klein par Gérard Cléry qui éclaire son parcours recueil après recueil. J'allais éclore, mais le feu a repeint la vie et ses doigts de dentelle m'ont écrasé sans bruit. Elle n'apprend qu'à 30 ans qu'elle est juive. Elle sera la compagne de Pierre Esperbé et travaille avec lui autour de la revue Phréatique. La peur a mis son corsage d'oiseau, comme si la nuit devait en mourir. Tous ses récents recueils sont édités chez Alain Lucien Benoît. Mis à part ça, une promenade avec Roger Vaillant, l'infréquentable par Jean Van Langenoven, des textes aussi de Jacqueline Lalande, Yves Boutroux, Frédéric Tison et Samaël Steiner. Mis à part ça, un dossier consacré à l'incroyable auteur de Happening, Pierre Pinoncelli, avec un entretien de Virgile Novarina qui prépare un film sur lui par Marie-Françoise Dubromel. Pierre Pinoncelli, né en 1929, termine son préambule ainsi. « S'efforcer d'être grotesque pour empêcher la vie de se coaguler dans le sérieux, le bon goût et l'esthétisme. » Il dit par ailleurs « Le happening, pour moi, c'est l'immaturité volontaire, c'est la fidélité à l'enfance. C'est une rallonge mise à la jeunesse. » Je cite quelques exemples retentissants de ses actions. Un hold-up à la Société Générale de Nice, jumelé à la ville du Cap en 75 lors de l'apartheid. L'aspersion d'André Malraux de peinture rouge lors de l'inauguration du musée Chagall à Nice en 69, entre autres, et bien sûr les 3 attentats contre l'urinoir de Duchamp, une fois en urinant dedans, ready-made réciproque, et deux fois en les cassant avec un marteau. Enfin, en 2002, il se mutile un petit doigt pour protester contre les FARC en Colombie. Incroyable personnage. Mais à part ça, le numéro est tellement plein comme un œuf et riche à la lecture qu'il mérite largement d'être la revue du mois, la revue audio-périodique. 17 euros, 8 rue Charles Moiroux, 95-440, Écouen. À la prochaine fois.
À la prochaine fois, dans 4 semaines, pour cette nouvelle revue des revues audio que vous attendez tous impatiemment. Chaque mois, il faut lire les revues qui sont de véritables viviers de nouveaux talents. Vous le savez, tous les 15 jours, il m'arrive comme ça de voler sans vergogne un poème sur un site internet et de vous le lire parce que voilà, je l'ai aimé. Il m'arrive aussi de recevoir des poèmes. C'est le cas aujourd'hui. Ça a été le cas en tout cas. Ça a été le cas la semaine dernière. J'ai reçu des poèmes de Khalid El Morabetti, un jeune auditeur de La Route Inconnue, poète lui-même, étudiant à Oujda au Maroc. Et je souhaitais vous lire le texte suivant qui a une force d'expression absolument... ça me fait chier. Merci Jacques, on se retrouve dans 4 semaines pour une nouvelle revue des revues audio. Alors vous le savez, il m'arrive de piocher des poèmes, des pépites dans des sites consacrés à la poésie contemporaine. Là, il y a 15 jours, vous avez pu découvrir des poèmes de Josiane de Jésus-Berger que j'avais volé sans vergogne sur le site Terre à Ciel animé par notre amie Cécile Guivarch. Mais il m'arrive aussi de recevoir des poèmes, notamment du Maroc de Khalid El Morabetti, un jeune poète qui est étudiant en lettres à Oujda. Et je vous propose à présent d'écouter ce poème doté d'une force d'expression assez extraordinaire. À l'intérieur du bidon, le vide est assis. Son parapluie est noir. Il n'y a pas de pluie. Son parapluie est noir. Il n'y a pas de soleil. Son parapluie est noir. Il n'y a pas de nuages. Son parapluie est noir. Il n'y a pas d'image. Son parapluie est noir. Il n'y a pas de mots justes. Son parapluie est noir. Le vide est assis. Il parle au silence, s'excusant d'être tranquille, d'être assis, d'être habité par un autre vide dépressif. Il s'excuse de ne pas avoir l'envie de mourir. Ce serait beau et magnifiquement écrit. Les papillons passeront et les gens pleureront, mangeront de la viande et partiront. Le vide est assis. Il craint le soleil, son parapluie est noir. Il n'y a pas de soleil, son parapluie est noir. Pas de rage, pas de fatigue, son parapluie est noir. À l'intérieur du bidon, les mains lourdes, lourdes tombent tout au fond et font un bruit étrange. Des têtes lourdes, lourdes tombent, tombent au fond du sol. Les uns font un bruit étrange et d'autres se mangent. Des grosses mains blanches tombent sur le parapluie du vide, son parapluie est noir. Des poings lourds tombent sur des tombes et sur la figure du noir, sur le reste et sur tout ce qui reste. À l'intérieur du bidon, c'est vaste. Les souvenirs ne comprennent pas leurs pensées. Ils se comblent et se stockent comme de la graisse dans le corps d'un obèse assis au milieu. À l'intérieur du bidon, l'odeur des poids lourds qui tombent se forme. Ils deviennent une chose qui marche et qui parle comme un homme avec une pomme collée au visage, une pomme vide, sa graine est vide, une pomme d'un homme vide dans son regard, dans son œuvre d'art, un homme blanc sombre. Il y a du vide dans son mouchoir qui se jette dans le bidon vide noir. Voilà, c'est un poème de Khalid El Morabetti, un tout jeune poète qui étudie les lettres à Oujda. Et je pense que nous en reparlerons. Si vous êtes un familier de La Route Inconnue, vous savez à quel point j'apprécie le haïku, cette poésie. Né au Japon au cours du XVIIe siècle, à la fin du XVIIe siècle, c'est Matsuo Basho qui en est le père. Et chaque mois, eh bien, notre ami Jean Antonini, qui est le responsable de la revue Gong, l'organe officiel de l'association francophone de haïku, Jean Antonini, nous instruit à propos du haïku, de son histoire, de ses principaux maîtres et aussi de ses pratiquants contemporains. Alors, que nous réserve Jean Antonini ce mois-ci? Je vous propose de l'apprendre de sa bouche.
Lisons aujourd'hui quelques poèmes de Shiyoni, 1703-1775. Fille d'un marchand de matériel pour les peintres et les calligraphes, elle apprend les caractères chinois et japonais auprès d'un maître de haïku. Elle a ensuite pour professeur un disciple de Basho. Le grand poète était mort 9 ans avant sa naissance. Le nom de Shiyo est vite connu dans le milieu des poètes, ainsi que sa beauté. À partir de 30 ans, ses parents étant morts, elle reprend le commerce avec sa nièce et le mari de celle-ci. Et à 50 ans, elle laisse le commerce et se fait moine bouddhiste, Shiyo Ni, et se rase les cheveux. Cela lui apporte une liberté qu'une épouse ne pourrait avoir. Elle se consacre au haïku, rencontre de nombreux poètes, publie son premier recueil à 62 ans, écrit des préfaces, notamment pour le poète Busson. Elle publie son second recueil à 69 ans et elle meurt à l'âge de 72 ans. Commençons par le plus célèbre de ses hoku. Asagao ni tsurube torarete moraimizu. Les volubilis enserrent le seau du puits. Je demande de l'eau aux voisins. Même à la campagne aujourd'hui, nous avons oublié comment remplir un seau au puits en le laissant descendre au bout de sa chaîne. La poète va puiser de l'eau. C'est la fin du printemps. Les volubilis, on les appelle aussi les liserons, ont poussé et fleuri sur la chaîne du puits. Impossible d'avoir de l'eau sans les détruire. Alors, on va voir le voisin pour pouvoir regarder tous les jours les fleurs du volubilis éclore. C'est un poème plein de charme qui fait penser à la rose de Ronsard déclose au jardin. Shiyoni préfère la beauté de la nature à ce puits, machine qui permet d'obtenir de l'eau. On sent ici l'influence du taoïsme qui conseille à l'être humain de rester en harmonie avec la nature sans essayer de la servir à ses besoins par des machines ou des constructions. Les volubilis enserrent le seau du puits, je demande de l'eau aux voisins. Pour nous, ce liseron serait une mauvaise herbe à arracher ou même à asperger de désherbant. Tombo tsuri kiyo wa doko made itayara. Maintenant, jusqu'où est-il allé, mon petit, chasser les libellules? La poète eut un fils, un tout jeune garçon, qui mourut à moins de 7 ans. Elle écrit ce poème à l'occasion de son enterrement. On trouve souvent des libellules dans les haïkus. Elles apportent le mouvement rapide de leurs ailes à l'automne. Cette chasse aux libellules est une délicate expression pour parler de cette absence et évoquer l'enfant dans sa course. Maintenant, jusqu'où est-il allé, mon petit, chasser les libellules? Terminons cette lecture par un poème magnifique. Première neige. Ce que j'écris s'efface, ce que j'écris s'efface. Première neige, c'est le début de l'hiver. Le haïku célèbre volontiers les premières fois parce qu'elles sont saisissantes et font surgir le poème. La blancheur recouvre le sol. Shiyoni dit que ses poèmes s'effacent, comme si la neige recouvrait les lettres et rendait sa blancheur à la page. Cette blancheur, c'est une image du vide, du rien, d'où tout surgit. Si
si fondamental dans les cultures chinoises et japonaises. Ici, c'est le silence qui surgit. Le haïku, dans son extrême concision, cherche toujours à flirter avec le silence, comme dans ce poème de Yasuhara Teshitsu. Korea, Korea, to bakari hana no yoshinoyama. Ça, c'est tout ce que j'ai pu dire devant les fleurs du mont Yoshino. Finalement, l'idéal du poète de haïku, c'est le silence. Regardez la première neige, les fleurs de cerisier, sans dire un mot. Laissez toute sa place à la nature, ne pas encombrer de mots sa beauté. Pour évoquer la neige qui tombe, Shiyoni répète la ligne 2 en ligne 3, une façon d'en dire encore moins dans le poème. Première neige, ce que j'écris s'efface, ce que j'écris s'efface. Les poèmes ont été tirés de Du rouge aux lèvres, édition de la Table ronde, et de Shiyoni Bonsès au jardin nu, édition Mundaren.
On écouterait Jean Tonini pendant des heures nous conter l'histoire du haïku. Mais le temps passe et nous arrivons bientôt au terme de cette édition de La Route Inconnue. Je vous propose de nous quitter en compagnie de Jean-Claude Touzey qui va nous lire quelques poèmes, quelques coups de cœur. À très bientôt, à dans 15 jours très précisément, pour la prochaine édition de La Route Inconnue. Excellente fin de journée à toutes et à tous et surtout restez à notre écoute.
Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va essayer de lire des poèmes d'Yves Artufel. Yves est surtout connu comme éditeur et autres occupations, mais c'est aussi un poète discret. Alors, je commence. Cet extrait de Dernier contrôle de la tension des méridiens ou bien de Ma vie en rose, édition Gros Texte. Je me souviens très bien de ces soirs très tard où, pensant toucher l'éternité, on se dit qu'on va fleurir enfin. Et puis tout à coup, on se sent pleuvoir et on a le regard imbécilement profond. On peut dire aussi que je perds mon temps. Je construis des murs effondrés, des sentiers, des orties. Il vaudrait mieux, me dit-on, une parole solide et sûre, en harmonie avec les miroirs des forêts, les saisons. Mais non, je me plais à passer dans les buissons, je construis des branches, des sommeils, des jeunes herbes. On a dit mon nom au micro. Le poète Yves Artufel. Je devais y aller, et pourtant, tout en moi se demandait qui pouvait bien être ce type. Elle est floue, cette vie. On ne voit pas grand-chose à travers. Le poète tente de faire les réglages nécessaires. Cœur vaillant, il travaille très tard, en sifflant, au fond des boîtes à outils. Quelques aphorismes aussi de lui-même, Yves Artufel. Les fossiles se sont laissés surprendre, comme nous. Il faudrait aller très loin dans l'étude de la proximité. Un ciel noir à faire peur et un orage de quelques gouttes, ridicule, on a honte pour lui. Pour ce qui est de l'avenir, je peux d'ores et déjà affirmer qu'il se passera un certain nombre de choses et que toutes ne seront pas forcément agréables. Si tu es dans une impasse, tu peux aller jusqu'au bout en toute confiance. Voilà, donc pour Yves, je termine mon intervention avec quelques parfois. Parfois, la chouette aimerait vivre au jour le jour pour voir. Parfois, les jours sans, Les oursons pêchent des oursins. Parfois, le poisson rouge m'écrit un petit mot rapide sur du papier bulle. Parfois, la poule pond des poèmes pour rire. Parfois, le singe imite le singe. Voilà. Au revoir tout le monde.
You told everybody that I couldn't drive, and you didn't even want me around. And you knocked my love, and you know that's a lie. 'Cause I'm a good man when the flag goes down. I'm gonna drive like I've never been hurt, down the road like you never lied. I'll find my way like I've never been lost. You never laughed and I never cried. I'll say goodbye to all my friends. That won't take too very long. They'll be real big men someday. Never gonna miss me when I'm gone. I'm gonna drive like I've never been hurt. I'll be long gone like you never lied. I'll find my way like I've never been lost. Never laughed and I never cried, yeah. Well, I'm in the road, I'm in the right. I got a mind to drive all night. All over again. Fuse getting hot, sun's getting high. Salt is burning in my eyes. My brain's still good, my tires are fat. If my drag shoe fails, baby, I don't care. 'Cause I'm gonna drive. I've never been hurt. Be long gone like you never ride. Never been lost, and you never laughed. I never cried. Yeah. I'm gonna drive like I've never been hurt, down the road like you never ride. 'Cause I'll find my way like I've never been lost, and you never laughed.
But you know I had the 49 crank, I had the 24 stud head, I had the Lincoln gears, I had the 49 inch rear end, yeah, I had it. I had the Thompsons in the back, Bert Jakes Magneto in the front. I went down to Tony Nancy, got a bleeding interior. He said it looked good. She told me she didn't like it. Said I couldn't drive, and the car was no good to nobody. Look here, I'm going. I'm gonna hit the road. I ain't coming back. I'm gonna drive. I ain't gonna cry.